Au Mali, les échecs de la force d'occupation se multiplient, non seulement sur le plan politique ou sécuritaire, mais également économique. À peine quelques semaines après l'embargo occidental imposé au Mali, pays qui, au bout de 8 ans d'occupation militaire par les forces françaises puis otaniennes, israéliennes et américaines, n'entend plus se laisser faire, pays héritier d'un empire où la population, forte de sa foi, a décidé de prendre son destin en main, le Mali trouve, une à une, les solutions afin de contourner ces sanctions, et pas de moindre. Au Mali, le coton est la principale culture de rente. Face à la décision des pays de la CEDEAO de fermer leurs frontières avec le pays, en attendant un nouveau calendrier électoral, les autorités cherchent des moyens alternatifs pour expédier la fibre. La compagnie malienne pour le développement des textiles a procédé le vendredi 25 février dernier au lancement de la première vague d'exportation de coton via la Mauritanie, c'est ce qu'a rapporté l'agence malienne de presse. Dans les détails, 53 camions ont pris le départ de la commune de Kati, située à 15 km de Bamako, en direction du port autonome de Nouakchott, pour embarquement vers le marché d'exportation. D'après Modibo Keïta, ministre du Développement rural, l'utilisation du corridor Bamako-Nouakchott pour l'évacuation de l'or blanc malien permettra de faire face aux sanctions de la CEDEAO qui empêchent le pays d'utiliser les canaux traditionnels que sont les ports de Dakar, d'Abidjan et de Lomé. Plus spécifiquement, l'opération aidera la CMDT à désengorger ses usines d'engrenage et à respecter les dispositions relatives aux délais de livraison dans les contrats noués avec les importateurs de la matière première qui proviennent majoritairement d'Inde, de Chine et de Thaïlande. C'est une alternative crédible parce que le corridor mauritanien n'est pas méconnu des transporteurs maliens. Dorénavant, on ne va plus mettre tous nos œufs dans le même panier. Nous allons diversifier nos partenaires et renforcer nos collaborations, a confié à l'AMAP Youssouf Traoré, président du Conseil malien des transporteurs routiers. Dans le pays, les autorités anticipent une récolte de 810 000 tonnes de coton en 2021-2022, contre seulement 147 000 tonnes. En 2020-2021, le prix du kilogramme a été revalorisé à 280 francs CFA durant ladite année, contre 200 francs CFA un an plus tôt. Cette décision pourrait être un début pour la mise en cause du franc CFA, le Mali étant capable d'entrer dans des systèmes d'échange basés sur le troc et éviter tout recours au franc CFA. C'est un échec à double sens pour la France, puisqu'il y a 24 heures, on a appris que les coopérants français au sein des différents ministères du Mali seront retirés. Quelque temps après la retraite définitive des forces françaises du territoire malien, c'est au tour des différents coopérants. En effet, ces coopérants présents dans les différents ministères ainsi qu'au sein de l'état-major, en tant que conseillers des autorités et apportant de même une aide dans les ministères, ne seront bientôt plus à la manœuvre. L'information a été portée par le chargé d'affaires de l'ambassade de France, Laurent Favier, à l'issue d'un entretien avec le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop. L'exportation du coton malien vers la Mauritanie, le retrait des forces Barkhane, le retrait des conseillers, le rapprochement avec l'axe de l'Est, le blocage du ciel malien au vol interventionniste des forces étrangères, et enfin la résistance exemplaire du peuple malien face à la force d'occupation ne sont que le début d'une grande vague anticolonialiste qui ne fait que commencer. La résistance malienne et même sahélienne est passée à l'action. Les messages sont passés. Ni les sanctions, ni les menaces et ni les pressions ne feront reculer le peuple malien. Au Mozambique, plus le temps passe, plus les raisons des attaques de Daesh aux alentours des installations gazifères des multinationales comme Total se clarifient. Aujourd'hui, l'Occident n'a pas besoin d'une armada de raisons pour justifier son entrée ou même sa sortie en toute légalité d'un pays africain. En voyant la situation du Mozambique, beaucoup de médias font un parallèle avec le Mali. au point de se demander si le plan de Macron avec l'aval de ses pairs, les États-Unis, ne consisterait pas en un déplacement de Barkhane vers l'Afrique de l'Est après l'échec et l'embrasement qu'il a subi au Sahel. Zoom Afrique s'est penché sur cette possibilité à de nombreuses reprises. Les dernières informations publiées par Amar, l'organe de presse lié à Daesh, font état des photos montrant des charges d'armes qui ont été capturées par les cellules du groupe terroriste dans la province de Cabo Delgado, au nord-est du Mozambique. Les terroristes de Daesh se seraient emparés des armes lors d'une série de 3 attaques qui ont eu lieu dans le district de Macomia le 28 février. Les terroristes ont attaqué 3 positions des forces armées de défense du FADIM dans les villages de Litmanda, Chai et Kent. Selon Amar, plusieurs soldats du FADIM ont été tués ou blessés lors des attaques. Depuis la découverte de cet Eldorado gazier, la France a tout fait pour convaincre Washington de lui laisser prendre un certain monopole. C'est donc réussi. La firme Total prend donc une partie importante des ressources du Mozambique, via ensuite l'Américain ExxonMobil et l'Italien Eni. Mais outre le contrôle de la majorité des ressources, et grâce notamment au contrôle des îles éparses, la France se positionne aussi comme un gardien de la côte et donc de cette partie de l'océan Indien. C'est pourquoi les députés français ont refusé de restituer la souveraineté des îles éparses à Madagascar, qui lui revient pourtant de droit. D'un autre côté, le rapprochement du Mozambique avec l'axe de l'Est gêne et l'Occident, embrasé au Sahel et en Afrique de l'Ouest, voit ses derniers espoirs quant à un déploiement et colonisation de cette région africaine tomber à l'eau. En effet, la Chine est devenue un partenaire commercial incontournable pour Maputo. En 2019, la Chine était le 2e pays fournisseur du Mozambique avec 28,5% des parts de marché, soit 1,9 milliard de dollars. Au total, l'Empire du Milieu a investi 2,2 milliards de dollars dans l'économie mozambicaine en 15 ans, ce qui en fait le premier créancier du pays, loin devant le Portugal. Outre ce pont, la Chine a investi des sommes faramineuses dans différents projets d'infrastructures. On peut citer l'aéroport international Zaïzaï dans la province méridionale de Gaza, la réhabilitation de la route Beira-Machipanda ou encore la reconstruction du port de pêche de la ville de Beira dans la province de Sofala. C'est pourquoi le Mozambique est en train de devenir une nouvelle arène où différentes puissances globales se livrent une concurrence acharnée. Les puissances occidentales veulent à tout prix éviter que le gaz mozambicain tombe sous le contrôle d'entreprises chinoises, russes, voire indiennes. En même temps, les Européens tentent de s'assurer le contrôle de l'extraction du gaz afin de fournir l'UE pour qu'elle devienne moins dépendante de la Russie et pour ouvrir de nouveaux marchés. L'armée nationale s'est pour le moment ralliée à l'armée tanzanienne pour pouvoir combattre ce terrorisme et le Mozambique aurait certainement besoin d'alliés de taille qu'il devrait trouver facilement du côté de l'Est afin d'éradiquer le terrorisme comme ceux qui ont réussi à vaincre le terrorisme en Syrie. La résolution de l'ONU concernant la crise entre la Russie et l'Ukraine, exigeant que la Russie retire immédiatement ses forces militaires du territoire ukrainien, a été adoptée par 141 votes pour, 5 votes contre. Russie, Belarus, Érythrée, Corée du Nord et Syrie et 35 abstentions. 17 abstentions sur 35 viennent des pays africains, avec entre autres le Congo-Brazzaville, Madagascar, le Mali, le Sénégal, le Soudan, l'Algérie, l'Éthiopie ou encore l'Afrique du Sud qui se sont abstenus. Alors que les médias mainstream évoquent l'embarras d'une partie du continent vis-à-vis de ce conflit, comment peut-on réellement analyser la prise de position des pays africains dans cette affaire? Luc Michel, géopoliticien, nous en dit plus.
Tout d'abord, il faut savoir les conditions dans lesquelles est intervenue l'Assemblée générale des Nations unies. Les Américains se vantent que c'est la première fois depuis 40 ans. Ça veut dire que pendant toutes les agressions américaines, en Yougoslavie, en Irak, en Syrie, en Libye, au Yémen, les Américains n'ont pas été préoccupés par les problèmes de leurs massacres. Mais dès que c'est la Russie, c'est le cas. Le deuxième, c'est le climat. La plupart des gens qui ont voté contre la Russie ou qui se sont abstenus n'ont pas osé faire autrement. Il y a un climat de terrorisme intellectuel au niveau diplomatique mondial, les États-Unis menaçant de représailles. Lorsque des pays qui seraient tentés à la neutralité voient ce que subit la Russie, a presque subi l'Iran, évidemment, ils ont peur. Ce climat, il correspond également à un climat politique. On traque les pro-russes dans toute l'Europe et dans tout l'Occident. Moi-même, vous savez que je suis poursuivi par la justice belge sur commission rogatoire d'un faux parti ukrainien de Crimée pour avoir organisé le monitoring du référendum d'autodétermination de la Crimée en mars 2014. Et tous les politiciens qui étaient pro-russes, mais qui étaient des gens pas intéressants, ils se sont retirés. C'est le cas de l'extrême droite française, Mélenchon, Zemmour ou Dupont-Aignan. Eux ont déclaré, par exemple, Zemmour a déclaré que Poutine, c'était un patriote d'agression, tandis que Zelensky, c'était un patriote héroïque. Marine Le Pen condamne et Dupont-Aignan condamne. L'un des adjoints de Marine Le Pen, Ménard, lui, il condamne carrément, c'est l'ancien patron de Reporters sans frontières. Il appelle au soutien à Emmanuel Macron au nom de l'unité nationale. Un autre, Mélenchon, qui est un hypocrite, qui est allé se recueillir il y a quelques mois sur la tombe de Sankara alors qu'il était dirigeant du Parti socialiste au moment où Mitterrand assassinait Sankara, eh bien, il a condamné Poutine. C'est la même chose des politiciens de droite. Matteo Renzi, l'ancien premier ministre italien, l'ancien ministre de l'Intérieur italien, qui a dénoncé la Russie, et François Fillon, qui a démissionné de ses mandats d'administrateur. Le seul qui reste fidèle à l'alliance avec la Russie, c'est le chancelier Schröder, et on souhaite certains le faire expulser du Parti social-démocrate. Il y a des appels dans tous les parlements, en Belgique, en Allemagne, au Parlement européen, pour que pour la première fois de l'histoire, des sanctions soient prises contre les pro-russes, c'est-à-dire qu'on sanctionnerait des citoyens dans leur propre pays. Jusque-là, on prenait les autres. Ça explique ce qui s'est passé, évidemment, aux Nations Unies. Le vote de l'Afrique, il est particulier. Tout d'abord, il y a le cas du néo-panafricanisme. Les masses panafricaines sont vent debout derrière la Russie. Tout le monde soutient le programme de Poutine, démilitarisation et dénazification de l'Ukraine, mais plus encore, moi dans plusieurs émissions, puisqu'Afrique Média fait émission spéciale sur émission spéciale, j'ai appelé les chars russes à rouler dans les rues de Kiev et j'ai eu un large soutien. Voilà la première chose. Les pays qui soutiennent la Russie, ils ont voté contre. Bien entendu, il y a l'Algérie, il y a le Mali, etc. Il y a même le dernier État marxiste d'Afrique, l'Érythrée, qui lui a voté en faveur de la Russie, comme d'ailleurs le Venezuela ou la Syrie. Les pays qui ont voté contre la Russie ou qui ont fait des remarques moralisatrices, ce sont ceux que j'appelle, excusez-moi du terme, mais les putains de l'Amérique, et ça n'a pas d'autre terme. Je ne sais pas les appeler autrement. Il y a particulièrement le Ghana. Qu'est-ce que c'est le Ghana? C'est la porte d'entrée de l'Allemagne en Afrique. Le Ghana est dans les mains de l'Allemagne. La Bundeswehr allemande, elle contrôle toutes les forces spéciales du Ghana. Le deuxième, c'est le Kenya. Le président Kenyatta, il était poursuivi pour crime de masse lors d'élections au Kenya. Il a fait un accord avec la CPI et l'intermédiaire des Américains et il était poursuivi ainsi que son premier ministre et ils ont été tous les deux absous de poursuites. Il a fait de son pays la plateforme de l'Africom, c'est-à-dire c'est là notamment que sont organisées en alternance avec le Maroc les grandes manœuvres lyon-africaines. Deux autres pays se distinguent, c'est le Rwanda de Kagame et le Congo Kinshasa de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, c'est l'homme des Américains au Congo. Il est membre du think tank américain Atlantic Council. Et pour le reste, il réussit un exploit puisque c'est un domestique du State Department, des multinationales minières, des affaires étrangères belges et du Quai d'Orsay. C'est donc ce que le grand Frantz Fanon appelait un esclave de maison. Le Rwanda de Kagame, lui, c'est la porte d'entrée. Depuis que les anglo-saxons l'ont amené au pouvoir en 1994, c'est la porte d'entrée des anglo-saxons dans la région des Grands Lacs. Il a défrancisé son pays pour remplacer l'anglais comme seconde langue. Il a dirigé les services secrets ougandais sous la direction du MI6 britannique. Et ensuite, il a pris le pouvoir au Rwanda. Voilà donc, il est également allié dans le cadre de la diplomatie secrète à Emmanuel Macron. Deux autres pays encore se sont distingués. C'est la Côte d'Ivoire qui est le pays dominant de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire, on dit de lui en Afrique du président Alassane Ouattara que c'est un sous-préfet français. On a raison. Il a transformé son pays en un bras séculier de la France, en particulier avec Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, il accueille également les forces spéciales américaines dans tout le pays. Il est en pointe contre le Mali et la Russie. Ce n'est donc pas étonnant son attitude aux Nations Unies. Voilà tout ce qu'il faut retenir de cette affaire. Les chefs d'État africains démontrent une fois de plus qu'ils sont contre les masses africaines et contre leur peuple. Et ça va être lourd de sens dans le futur. Vous savez qu'une série de dirigeants qui voulaient déployer dans le pays l'opération Barkhane qui quitte le Mali, par exemple au Burkina Faso ou encore au Niger, eh bien, ils sont critiqués par leur peuple et sous la menace de coup d'État. Ils sont vomis par leur population et ceci ne va pas évidemment, vu la popularité de Poutine en Afrique, cela n'a pas aidé les choses. On se rappellera qu'au Mali, la révolution avait commencé par une pétition des jeunes maliens qui a recueilli 8 millions de signatures et qui s'est intitulé « Vladimir Poutine vient sauver le Mali ». Voilà donc ce qui se passe un peu partout. Et donc, on ne changera pas les choses. Nous constatons cela sur Afrique Média. On démultiplie les émissions sur l'Ukraine et le soutien à la Russie. Ce qui se voit très rarement, nous avons un soutien unanime des 220 millions de téléspectateurs notre télévision panafricaine. Des journaux comme le Zoom Afrique de Presse TV, par exemple, sont aussi salués par certains téléspectateurs et sur les réseaux sociaux pour les positions pro-russes. C'est tout cela. Il y a également une sympathie qui n'est pas seulement pour la Russie, mais qui est également pour l'Iran dans toute l'Afrique, puisqu'elle fait partie du bloc de l'Est et qu'elle soutient les panafricains.